9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, comme ça le dimanche c'est Voix au chapitre. Un rendez-vous avec l'histoire ce dimanche. Nous allons parler du 17 octobre 61. Cette année, la 59e commémoration d'une date d'histoire de la France et de l'Algérie. Alors comment ne pas l'oublier, l'ancrer dans la mémoire collective, ce jour qui fut si longtemps tu. 17 octobre 61, petit rappel, en pleine guerre d'Algérie à Paris, les Algériens et les Algériennes manifestent pacifiquement à Paris. Ils seront près de 30 000 venus de la région parisienne manifester contre le couvre-feu à l'initiative du FLN et manifester contre le couvre-feu imposé par le préfet Papon. La répression sera sanglante, des blessés, des torturés, des hommes jetés dans la Seine. L'histoire ne doit pas être oublieuse de ce passé. Pour nous le rappeler, nos invités ce dimanche, le plaisir d'accueillir Olivier Lecourt-Grandmaison, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être là. Et Mehdi Lalaoui.
Bonjour.
Alors vous allez nous rappeler tous les deux cette histoire du 17 octobre 61, mais peut-être dire que cette introduction que je faisais n'était pas si longue, mais elle était aussi liée au fait que j'y suis attaché à ce 17 octobre 61, comme nombre de nos auditeurs et auditrices, cette histoire nous parle. Pour finir, enfin, dans cette introduction, rappelez que l'un et l'autre, Mehdi Lalaoui et Olivier Lecourt-Grandmaison, vous êtes dans ce collectif parisien, ainsi que la LDH, le MRAP et d'autres associations, les Oranges à Nanterre, qui chaque année donnent rendez-vous le 17 octobre 61 sur le pont Saint-Michel. Si on se rappelle que cette histoire collective de commémoration du 17 octobre 61 est apparue en 1991, on est 30 ans après. Vous êtes infatigables l'un et l'autre pour nous rappeler qu'elle est importante cette mémoire, cette reconnaissance du 17 octobre 61 et vous en êtes vraiment infatigables. Olivier Lecourt-Grandmaison, rappelez que vous êtes universitaire, que vous enseignez à l'université d'Évry et vous êtes attaché depuis bien longtemps à ces questions coloniales. Vous avez publié de nombreux livres, dont un livre justement en 1991 qui rappelait justement ce 17 octobre 61 et vous avez fait paraître tout récemment un livre qui s'appelle « Ennemi mortel » qui était la représentation de l'islam et des politiques musulmanes en France dans cette époque coloniale et vient de paraître et vous en serez invité très prochainement à livre aux éditions La Découverte « Racisme de France ». Mehdi Lalaoui, vous êtes réalisateur, auteur, on vous doit aussi de nombreux ouvrages et de documentaires surtout sur l'histoire de l'immigration, les massacres de Sétif, 8 mai 45. En 91, vous réalisez Le silence du fleuve, un documentaire sur le 17 octobre 61, qui est constitué d'images d'archives, de témoignages. C'était il y a près de 30 ans, les témoins étaient encore, j'allais presque dire sans maladresse, assez nombreux. Il semblerait que le temps passe et que ces anciens ne sont moins nombreux aujourd'hui, mais en tout cas, il y a cette parole est restée de ceux qui manifestaient ce mardi-là, du 17 octobre 61. Je me souviens que ce film était diffusé sur une chaîne publique à 23h50, c'est ça, Mehdi ?
Non, il n'a même pas été diffusé.
Il n'a pas été diffusé sur une chaîne de télévision publique.
C'était encore trop incroyable à accepter de parler du massacre des travailleurs algériens à Paris sur une chaîne publique à l'époque. Il a fallu un certain nombre d'années pour que les chaînes publiques s'intéressent au 17 octobre 61, comme aux massacres coloniaux en général.
Alors, quand je dis que vous êtes toujours présent sur cette reconnaissance, sur cette mémoire du 17 octobre 61, est-ce qu'on peut dire que depuis 30 ans, puisque c'est une date un peu que je mets un peu charnière de tout ce qui est la commémoration collective, dans la mémoire collective du 17 octobre 61, grâce à ces luttes, Ça a monté un petit peu en reconnaissance. Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on attend? Quelles sont les attentes? J'ai là sous les yeux évidemment un appel à ce rassemblement pour le samedi 17 octobre à Paris sur le pont Saint-Michel. Symboliquement, hein, c'est toujours là qu'on se retrouve. Mais il s'est passé et du temps et des combats pour que on arrive à des succès, peut-être pas le dire comme ça, mais à des avancées. Olivier Lecourt-Grandmaison.
Oui, des
pour une fois où il y a des nouvelles plutôt positives, ne les négligeons pas. On va commencer par les avancées. Les avancées depuis le 30e anniversaire, ce sont effectivement une forme de nationalisation des commémorations du 17 octobre 1961 qui, dans les années 1991 et un peu après, étaient essentiellement parisiennes, qui sont maintenant strasbourgeoises, grenobloises, marseillaises, et j'en oublie certainement.
Valence, Lyon.
Exactement, puisque des collectifs se sont montés ailleurs en reprenant sur la base des mobilisations qui ont eu lieu à Paris. Donc ça, c'est très, très positif. Il y a aussi, au-delà de la plaque apposée au pont Saint-Michel, ailleurs, dans la région parisienne, mais également à Givors et dans d'autres endroits de communes de France, des plaques qui rappellent ce qui a eu lieu le 17 octobre 1961, avant, pendant et après. Donc ça, c'est très, très positif. Positif, mais rappelez que ces avancées ont pris énormément de temps, nous ont demandé beaucoup d'énergie, et là le « nous » est un « nous » évidemment collectif, reste, et c'est toujours une revendication qui me semble absolument essentielle, que nous attendons toujours des plus hautes autorités de l'État, une déclaration précise, ferme et circonstanciée sur les responsabilités politiques et étatiques de l'époque, et une qualification adéquate de ce qui a été perpétré pendant cette journée, avant et après,
les jours qu'on suivit, oui.
Et savoir un crime d'État, un crime contre l'humanité, commis par des policiers qui effectivement agissaient sous les ordres de Maurice Papon, lequel ne pouvait pas agir sans avoir l'aval de son supérieur hiérarchique, le ministre de l'Intérieur, et au-delà du Premier ministre. Et donc cela reste pendant. À quoi s'ajoute la question des archives, sur laquelle je reviendrai peut-être au cours du débat, et qui n'est non seulement toujours pas réglée, mais qui pose aujourd'hui des problèmes très significatifs en matière de rétention d'archives par notamment des services qui dépendent du ministère de la Défense.
Mehdi Lalaoui, ajouter quelque chose sur ce qui vient d'être dit par Olivier Lecourt-Maison, sur justement ce qui s'est passé depuis ce silence du fleuve en 91, mais aussi des livres, je pense à Meurtre pour mémoire de Didier Deninx, au livre de Jean-Luc Kennedy, bien entendu, Octobre à Paris, il y a eu des productions, entre guillemets, mais il n'y a pas eu de véritable avancée politique, comme le souligne Olivier Lecourt-Maison.
Oui, bien sûr. Avant de parler de ça, je voudrais avoir quand même, dans ce long combat pour la reconnaissance à travers des plaques, à travers des rues, à travers cette nationalisation de cette revendication qui est une revendication citoyenne. Les commémorations, c'est pas du fétichisme, hein, c'est un combat pour la justice. Hein. Mais avant ça, ce combat pour la justice, il a été porté par des gens. Et je voudrais qu'on ait une pensée pour ceux qui nous ont quittés, Brigitte Lainée, l'archiviste, qui a témoigné au procès contre Maurice Papon en 99, Moulouda Onit, bien entendu, qui a œuvré avec nous pendant toutes ces années pour ce combat pour la dignité, Jean-Luc Kennedy, bien entendu, qui a été un pilier du combat pour la connaissance et la reconnaissance du 17 octobre 61. Maclouf Boirlem, hein, d'Aubervilliers, qui a été aussi d'Aubervilliers, de Seine-Saint-Denis, mais aussi au niveau national, quelqu'un de très discret, qui était toujours présent, qui a relayé, voilà. Et là, récemment, j'ai appris hier le décès de Jean Eisenstadt, qui était un photographe, oui. De l'humanité. Tout ça, ce sont des témoins qui, à un moment donné, j'ai oublié Eli Kagan, qui est mort aussi il y a quelques années, mais voilà. C'est aussi grâce à ces gens qu'on a pu s'appuyer pour documenter la réalité de ce crime d'État qui n'était pas évident quand on a lancé cette histoire avec l'association Nom de la Mémoire et d'autres en 91. En 91, encore beaucoup nous disaient, mais c'est pas possible que dans une capitale qui a connu la Gestapo, qui a connu le nazisme, qui a connu les pires atrocités du nazisme, moins de 10 ans plus tard, on puisse jeter des êtres humains à la Seine, on peut les torturer, on peut voilà. Et c'est cette impunité aussi qui nous a porté. Voilà, parce que au jour d'aujourd'hui, nous sommes sur le 59e anniversaire. Au jour d'aujourd'hui, personne n'a été inquiété, personne n'a été poursuivi. Je lisais dans le journal Le Monde un article sur un auteur français qui travaille sur les crimes de guerre. Ah ben ouais, c'est bien de travailler sur les crimes de guerre des autres, mais ça serait bien qu'on travaille sur les crimes contre l'humanité de nos propres concitoyens en France. Ce qui est avancé, c'est quelque chose d'important, même si c'est parcellaire, mais je vais le dire parce que c'est important. C'est la déclaration du président de la République Hollande en 2012. Voilà, c'est la première fois qu'un président de la République s'exprime au nom de la République pour énoncer, pas complètement, pas de façon circonstanciée ce crime qui a lieu 17 octobre 65. Ça a été une grosse avancée. Et la grosse avancée qu'a souligné aussi Olivier, c'est que voilà, 59 ans après ce crime, aujourd'hui on est dans 40 municipalités, dans 40 villes de France qui commémorent cet événement, qui n'est plus un événement porté par les seuls citoyens franco-algériens, mais qui est un événement porté par la sphère démocratique.
La sphère politique, les élus locaux qui décident de faire un vœu à la municipalité pour que soit adopté, qu'il y ait une plaque, qu'il y ait une rue. Juste pour revenir sur ce que vous dites, Mehdi Lalaoui, peut-être reprendre la phrase de ce que déclarait François Hollande. Le 17 octobre 61, des Algériens qui manifestaient pour le droit à l'indépendance ont été tués lors d'une sanglante répression. La République reconnaît avec lucidité ces faits. 51 ans après cette tragédie, je rends hommage à la mémoire des victimes. Et je reviens sur ce que vous disiez, Olivier Legault-Grandmaison. Personne n'est nommé dans cette responsabilité. À chaque fois, personne n'est nommé, y compris sur les plaques. On nomme pas le préfet de police, nommément Papon. On nomme pas qui sont les responsables. C'est aussi ça qui vous tourmente dans ce combat de justice et de vérité.
Sur la déclaration laconique de François Hollande, rappelez que nous étions à l'époque un certain nombre à avoir demandé à être reçus à l'Élysée, que nous avons fait le pied de grue sous la pluie devant le palais de l'Élysée en demandant à être reçus et que nous n'avons jamais été reçus. Et nous avons donc appris en nous rendant sur le pont Saint-Michel, par ce communiqué par trop laconique, la pris connaissance du décommuniqué. Alors, il me semble qu'il y a une contradiction remarquable dans ce communiqué parce que il commence par une sanglante répression et la République reconnaît avec lucidité. Or, il me semble justement que si la République était à ce point lucide, il faudrait qu'elle reconnaisse que ce n'est pas justement une sanglante répression, mais qu'il s'agit bien d'un crime d'État et d'un crime contre l'humanité.
On reviendra dans un instant sur effectivement l'aspect politique, l'absence politique de reconnaissance du 17 octobre 61. On se retrouve dans un instant.
Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
Poursuivons ce Voix au chapitre ce dimanche. Je rappelle que nous évoquons le 17 octobre 61, puisqu'on est à quelques jours de la commémoration de ce rendez-vous avec l'histoire sur un pont parisien. Donc on donne rendez-vous aux auditeurs, aux auditrices le 17 octobre 61, c'est un samedi, c'est à 18h et c'est au pont Saint-Michel. Pour nous en parler, je rappelle que je reçois Olivier Lecourt-Grandmaison et Mehdi Lalaoui. Nous parlions dans cette première partie de notre émission de tout cet historique, de ce combat que vous menez l'un et l'autre pour qu'enfin aboutisse une reconnaissance, une vérité, une justice sur cette date du 17 octobre 61. On terminait sur l'aspect politique et l'absence de politique justement sur cette reconnaissance des plus hautes autorités de l'État, comme le dit si précisément Olivier Lecourt-Grandmaison, avec la reprise de ce qu'avait dit le président François Hollande quand il était élu, sur ce que devait être voilà sa reconnaissance à lui d'une certaine manière du 17 octobre 61. Évidemment, vous en attendez plus, Olivier Lecourt-Grandmaison, pour poursuivre sur ce que vous disiez tout à l'heure, ensuite Mehdi Lalaoui.
Oui, on en attend plus, je dirais d'autant plus que il y a eu par la suite une déclaration d'un candidat à l'élection présidentielle qui s'appelait Emmanuel Macron, et qui s'appelle d'ailleurs toujours Emmanuel Macron, sauf qu'il n'est plus candidat à l'élection présidentielle.
Il est
effectivement président de la République et chef de l'État, qui a déclaré lors d'un entretien devant une télévision privée algérienne que la colonisation avait été un crime contre l'humanité. Une déclaration assurément très forte, mais qui, comme beaucoup de ses prédécesseurs, n'a globalement pas été suivie des faits. Ça a été suivi des faits relativement à la disparition de Maurice Audin, assurément. Mais rappelez que la disparition de Maurice Audin est une chose, qu'elle ait été reconnue, c'est remarquable, mais que cela ne saurait masquer le fait qu'il y a des centaines d'Algériens, sans doute plus que cela d'ailleurs, des milliers, qui ont été portés disparus, d'une part en Algérie, et d'autre part, faut-il le rappeler et insister, en métropole, et à l'occasion du 17 octobre 1961, et qu'il serait plus que temps que les choses soient dites. Il faudrait aussi, et par ailleurs je voudrais revenir sur ce point parce que c'est un débat qui est maintenant également politique, puisque des associations ont déposé un recours devant le Conseil d'État pour pouvoir accéder aux archives, puisqu'un arrêté ministériel du Premier ministre de 2011 vise à restreindre la communication des documents estampillés secret défense. Et cet arrêté est contraire à la loi de 2008 qui dispose que, passé un délai de 50 ans, les documents d'archives, y compris estampillés secret défense, doivent être communicables et sont communicables de plein droit.
Et ils sont communicables à qui ? Je vous interromps par l'élément.
Ils sont communicables à qui en fait
la citoyens,
demande ?
Aux citoyens, aux historiens,
général,
à la recherche ?
Il faut effectivement justifier de recherches engagées sur le sujet. Ma position est que ces archives doivent être communicables à qui en fait la demande, peu importe le statut académique ou pas. Après tout, il me paraît tout à fait légitime que des descendants de victimes demandent à consulter les archives pour savoir ce qu'il en a été du sort de celles et ceux qu'ils ont perdus, que ce soit en Algérie ou en métropole. Donc on voit là aussi et là encore comment se construit au fond un double discours de grandes déclarations d'un côté qui en général ne sont pas suivies des faits, et de l'autre le maintien de dispositions étonnamment restrictives et, faut-il le dire, de mon point de vue attentatoires à des principes démocratiques justement relatifs à la libre communication des dites archives et à la possibilité pour les uns et les autres de les consulter. Sachant que sur ce point, la France fait partie des pays où les dispositions relatives à l'accès aux archives sont parmi les plus restrictives.
Mehdi Lalaoui, quelque chose à ajouter sur justement l'aspect politique, les attentes politiques que vous auriez ? Vous êtes, je le rappelle, président de l'association Au nom de la mémoire et que vous œuvrez depuis bien longtemps aussi sur ces questions du 17 octobre 61 en tant que citoyen, militant.
Oui, on revenait sur la déclaration du président Hollande en octobre 2012 qui a été une avancée. Même si on n'est pas satisfait parce que l'événement est mal nommé, mais à cet événement mal nommé, y a un autre événement, c'est un événement non dénombré. On est au 59e anniversaire et on ne sait pas encore, 59 ans plus tard, le nombre réel de morts assassinés à Paris le 17 octobre et les jours suivants. Voilà. C'est-à-dire que toute cette occultation, tout ce déni s'est poursuivi pendant toute cette année, parce que l'État et la puissance de l'État, quand l'État, la nation veut enquêter, veut défricher sur des problématiques anciennes, elle y arrive, elle a les moyens. Mais 59 ans plus tard, rien n'a été fait pour dénombrer réellement le nombre, pas seulement distribué, d'assassinés le 17 octobre et les jours suivants.
Jean-Luc Guénaudy avait, dans son ouvrage « Octobre à Paris », réussi, alors c'était compliqué pour lui, il le rappelait à cette antenne quand je le recevais, d'avoir les archives fluviales, d'avoir les archives qui pouvaient donner les nombres de morts, mais c'était pas suffisant évidemment, parce qu'il y a d'autres accès où il n'avait pas eu lieu. Donc il avait réussi à chiffrer à quelques centaines, mais rien n'est précis évidemment.
On attend de l'État que pour que cette vérité soit faite, qu'elle travaille là-dessus. On attend de l'État qu'il y ait des poursuites engagées. Moi, je suis assez effaré d'entendre qu'en Allemagne, plus de 80 ans plus tard, on arrive à poursuivre un comptable ou un gardien d'un camp de concentration plus de 80 ans plus tard. Et en France, on n'est pas... C'est-à-dire qu'on a reconstitué le rôle de chacun, et même si c'est symbolique, on poursuit les gens sur les faits qu'ils ont commis il y a plus d'un demi-siècle. Pas en France. Voilà. En France, l'histoire des crimes coloniaux et du 17 octobre 1961, pareil pour les massacres de Sétif en 1945, on sait que les événements ont eu lieu, on sait que ça a été terrible, mais on n'a jamais poursuivi personne. Ça, c'est pas ça la justice, c'est pas ça la République. Et nous, dans cette République où nous vivons, où nous sommes des citoyens, on demande qu'il n'y ait pas deux faits séparés sur des événements qui peuvent être nommés, qui peuvent être comptés, comptabilisés, et d'autres qui sont encore dans l'occultation. C'est de la responsabilité des plus hautes autorités de l'État de faire ces décomptes, de faire ces déclarations, de faire ces poursuites. Parce que il n'y a pas quitus par rapport à la déclaration du président Hollande. Et il n'y a pas quitus par rapport à la déclaration d'Emmanuel Macron sur la colonisation a été un crime contre l'humanité. Des actes, il faut des actes.
Alors les actes, c'est ce que vous demandez, Olivier Lecouvre-Maison, justement dans cet appel là, que j'ai sous les yeux, qui invite chacun, chacune à se rendre au rassemblement. Il y a justement les mesures significatives qui devraient être prises, donc que vous énumérez là dans cet appel. Donc quelque chose qui est important, c'est un lieu de mémoire sur le 17 octobre 61. De quoi il s'agit là dans ce lieu de mémoire? C'est qu'on ancre, les plaques ne suffisent pas et les rues, qu'il y ait une précision sur ce... sur ce 17 octobre 61, de manière symbolique ou en tout cas qui soit un lieu de mémoire où on rappelle, où on retrouve le 17 octobre 61.
Oui, alors il y a une plaque au Pont Saint-Michel et quiconque se déplace à pied dans Paris constate que Paris est une ville très profuse en plaques commémoratives.
Oui.
En plaques commémoratives, effectivement, pour les résistants tombés au cours de la libération de Paris, en général plutôt français-français, en oubliant les républicains espagnols et les troupes dites coloniales. Alors sur le 17 octobre, il y a cette plaque, mais c'est à la fois nécessaire et à mes yeux insuffisant. Je pense qu'il faudrait que, par exemple, dans des musées, et sans doute au musée de l'immigration, qu'il y ait une salle dédiée à cet événement, dont il faut prendre la plus juste mesure et l'ampleur de ce qui a été perpétré effectivement à l'époque. Et en partant du fait générateur de ces rassemblements et de ces manifestations pacifiques, qui est un couvre-feu raciste, faut-il le rappeler, imposé par Maurice Papon avec l'aval de ses supérieurs, et rappeler très tranquillement que oui, ce couvre-feu est raciste parce qu'il n'est opposable qu'aux seuls, comme on le dit à l'époque, Français musulmans d'Algérie. Il n'est pas opposable aux Français de l'Hexagone. Et donc, je pense que oui, il faudrait que des initiatives plus importantes soient prises, notamment au Musée national des migrations, qui est une salle, des salles permanentes sur l'histoire de l'immigration en général, mais là, qui est un des éléments très spécifiques sur ce qui a été perpétré le 17 et 18 octobre 1961.
Vous avez rappelé l'importance des archives. Il y a aussi une importance des historiens, des chercheurs, que de vouloir que soit ancré dans l'éducation de l'histoire sur le 17 octobre 61. Concrètement, est-ce que dans les manuels scolaires d'étudiants, enfin les manuels scolaires de lycéens et les manuels universitaires d'étudiants en histoire, est ancrée l'histoire du 17 octobre 61?
Alors, commencer par une remarque plus générale qui est au fond la suivante. Pour dire en ces termes, et en utilisant des termes un peu martiaux peut-être, mais la bataille pour la connaissance des événements du 17 octobre 1961, elle est désormais acquise.
Elle est réglée, oui.
Bien sûr, il faut continuer à travailler pour, comme l'a dit Mehdi Lalaoui, connaître plus précisément, d'une part, le nombre de victimes et, d'autre part, dans certains cas, même leur identité, assurément. Reste que l'essentiel est connu. Les responsables, qui a fait quoi, le nombre de morts, etc. nonobstant ce qui a été dit. Dans certains cas, et c'est sans doute un des effets des mobilisations qui ont eu lieu et du 40e anniversaire, il y a des choses dans les manuels scolaires. Le problème est désormais moins le contenu des manuels scolaires, encore qu'il faudrait aller y regarder
de plus près. Que la responsabilité de l'enseignant.
Le problème est effectivement que les enseignants aient le temps et se sentent capable de traiter de ces événements. Et on sait bien que les pressions des recteurs peuvent être significatives, les pressions de ce qu'il est convenu d'appeler l'opinion publique. Ce pourquoi, et pour y revenir, une déclaration des plus hautes autorités de l'État relativement à la reconnaissance de ce crime serait très important parce qu'on sait qu'à ce moment-là, les enseignants, quel que soit le niveau dans lequel ils enseignent, pourraient s'appuyer sur cette déclaration pour dire « Voilà, le chef de l'État a déclaré ceci, je m'appuie sur cette déclaration pour vous relater, vous informer, vous rappeler la chronologie des événements qui ont eu lieu le 16, 17, 18 octobre 1961 ».
Je rappelle que vous êtes toujours sur Beurre FM et que c'est Voix au chapitre. Et la Voix au chapitre de ce dimanche est consacrée au 17 octobre 61. Je vous retrouve dans un instant.
Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
Poursuivons notre rendez-vous. Je rappelle que je reçois ce dimanche Mehdi Lalaoui, réalisateur, documentariste. Il a réalisé un documentaire, Le silence du fleuve. C'était en 1991 déjà, il y a bien longtemps. Un des premiers films sur le 17 octobre 61. Depuis, il en a réalisé d'autres films sur les questions de l'immigration et de la mémoire. Il est président de l'association. Au nom de la mémoire, je reçois également Olivier Lecourt-Grandmaison. Il est historien, il a publié de nombreux ouvrages sur les questions coloniales. Et l'un et l'autre sont au collectif pour la commémoration du 17 octobre 61, qui, je le rappelle, donnera rendez-vous au public, nombreux, j'espère, malgré tout, le samedi 17 octobre à 18h sur le pont Saint-Michel et dans toute la France, parce que vous avez l'un et l'autre rappelé que cette initiative autour de la commémoration du 17 octobre 61 avait... été nationalisé d'une certaine manière, si je puis dire, parce qu'effectivement, sur tout le territoire national, il y a des commémorations et des rendez-vous avec cette date et avec l'histoire, de manière générale. Alors, un rendez-vous avec l'histoire, peut-être évoquer ce qui traverse, on va quitter un instant, si vous le voulez bien, le 17 octobre 61, pour rappeler, ben justement, c'est un peu lié, il y a les plaques commémoratives, il y a les stèles, et il y a d'autres symboles forts qui rappellent le 17 octobre 61. Mais il est des symboles qui aujourd'hui ont été dans l'opinion et dans le combat que mènent certains. C'est ce qu'on va dire de manière plus concrète, déboulonner l'histoire d'une certaine manière, déboulonner des statuts. Quel sens ça a pour vous que d'entendre aujourd'hui qu'on va déboulonner la statue de Colbert, qu'on va déboulonner que sais-je, et pour le coup, sans doute qu'il n'y a pas de statut qui ancre justement des mémoires qui sont des mémoires positives, est-ce le mot, mais en tout cas des mémoires qui sont aussi des figures qui sont symboles aussi de l'histoire commune. Olivier Lecourt-Grandmaison, Mehdi Lalaoui, l'un et l'autre de toute façon.
Sur l'affaire du déboulonnage des statuts en général et de celle de Colbert en particulier, il faut préciser immédiatement ceci. Il ne s'agit pas de déboulonner en l'occurrence l'histoire. Ce à quoi cherchent à porter atteinte celles et ceux qui sont contre ces statuts, ce n'est pas l'histoire, c'est la mythologie nationale républicaine ou la mythologie nationale française.
Le choix de ces statuts.
Le choix de ces statuts, et tout de même, il est quand même singulier que la statue de Colbert, qui a joué un rôle absolument fondamental dans l'élaboration, la rédaction du Code noir de 1685, se trouve en face de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire en face de l'une des institutions très importantes de la République, quand bien même c'est la cinquième. Qu'on m'explique comment cette République, dont il faut rappeler la devise « Liberté, égalité, fraternité », peut inclure dans ce grand roman national celui qui est à l'origine de ce qui a été reconnu comme un crime contre l'humanité, lequel a d'ailleurs été dénoncé bien avant la reconnaissance de 2005. Et donc, ce ne sont pas des initiatives contre l'histoire, ce sont des initiatives contre une mythologie nationale, pas pour faire moins d'histoire, au contraire pour en faire plus et que celle-ci soit plus précise et qu'elle ne soit pas oublieuse du rôle d'un certain nombre de grands personnages. Donc, comme par hasard, la face d'ombre, pour le moins sinistre en l'occurrence, est sinon totalement occultée, au moins marginalisée, secondarisée, en tout cas négligée.
donc ne pas la déboulonner, mais nommer précisément cette partie de l'histoire que vous avez évoquée sur sa contribution à l'écriture du code.
Absolument scandaleux que la statue de Colbert se trouve en face de l'Assemblée nationale. Il me semble qu'elle devrait être déplacée, placée dans un musée, et qu'il soit indiqué, sur la base du cartel, son histoire, l'histoire de Colbert, l'histoire du col noir, et l'histoire de la pérennité de cette institution terrible que fut la codification de l'esclavage, et l'esclavage et la traite triangulaire.
Alors, voilà pour la statue de Colbert, mais selon vous, Olivier Lecourt-Grandmaison, est-ce qu'il y a des manques de statues, de symboles qui pourraient représenter la République, qui n'auraient pas été inscrits dans des figures symbolique comme une statue, comme un monument, enfin qui n'est pas une visibilité de figure
importante.
Il
me semble que l'une des premières choses que devrait faire une république fidèle à ses principes, c'est d'honorer celles et ceux qui se sont battus
pour les libertés,
contre l'esclavage, qui se sont battus pour l'indépendance des colonies au nom des principes de la République, au nom du principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et on n'aurait pas de mal à trouver toute une série de noms d'hommes et de femmes qu'il serait souhaitable effectivement d'honorer, parce qu'au fond, ce sont eux qui ont maintenu haut et clair, au péril de leur liberté et parfois de leur existence, un combat à la fois individuel et collectif pour les libertés, pour l'égalité et pour la fraternité, en effet.
Certains ont parlé d'Aimé Césaire, d'une figure comme Aimé Césaire.
Aimé Césaire, Franz Fanon, celles et ceux qui ont combattu pour l'abolition de l'esclavage, choix est immense, et le choix des oubliés EES et oublié ES est effectivement, quand on y réfléchit un peu, sinistre et terrible. Et on dit long également sur la façon dont se construit un grand roman national-républicain qui occulte complètement un certain pan de l'histoire et évidemment certains pans de grandes figures de cette histoire.
Mehdi Lalaoui, sur cette question sur déboulonner et puis reconnaissance de figures symboliques de l'histoire.
Oui, moi je dis que l'espace public n'est pas anodin. L'espace public et l'accaparement de l'espace public dans le citoyen, chez le citoyen, dans la cité, ça signifie quelque chose, ça dit quelque chose. Moi j'ai souvenir, il y a une dizaine d'années, d'un accaparement de la ville de Paris d'espace public. Donc c'est il y a 10 ans, 2011, qui avait débaptisé un square face à Montmartre, qui était un collaborateur de la Deuxième Guerre mondiale, pour le renommer Square Louise Michel. Voilà. Ça dit quelque chose, les noms. Les statuts disent quelque chose aussi. Moi, je suis pour voir au cas par cas. L'exemple, par exemple, de la place du gouvernement en Algérie, il y avait une très très belle sculpture de Landowski qui rappelle 14-18. Et cette sculpture a été mise dans un sarcophage pour parler de la guerre de libération 54-62. Mais cette sculpture de Landowski, 14-18, c'est aussi les colonisés. C'est aussi les tirailleurs algériens, marocains, tunisiens, malgaches, etc. Donc c'est délicat de dire, est-ce qu'il fallait mettre ce sarcophage ou pas ? Moi, je pense que l'espace public dit quelque chose. Il fonde aussi une culture, une mémoire, un devoir de mémoire. Je disais tout à l'heure à Olivier, hors studio, l'histoire de cette rue Franz Fanon, que le conseil municipal sous la direction de Juppé, sous la présidence de Juppé, avait refusé l'année dernière. Fanon, c'est un libérateur de la France. Fanon, il a dans l'espace public une place comme libérateur. C'est un combattant contre le nazisme. Et c'est un libérateur par rapport à son travail de penseur, de médecin, de psychiatre. C'est un travail pour la liberté humaine. Je pense que il faut et il va y avoir de nouveau dans l'espace public ces noms. Toussaint Louverture, qui est le premier qui a mené une 1804, une révolution victorieuse contre l'esclavage, à sa place, et qui est mort en France, enfermé dans un château, à sa place dans l'espace public. Parce que l'espace public et les noms ou la statuaire disent ce que nous sommes. Et aujourd'hui, il serait inconcevable, par exemple, de voir une statue de Bijard ou de Massu dans l'espace public.
Il y en a une à Carcassonne de Soustelle.
Ah, bien sûr, on a celle des disparus avec un certain nombre de gens qui n'étaient pas disparus, qui étaient sur la stèle. Et j'y étais avec d'autres amis pour manifester contre cette stèle qui ne prenait qu'une part de l'histoire. Mais voilà. Au cas par cas, c'est pas une question de détruire des œuvres d'art, parce qu'on nous oppose en disant Dalou, la place de la République, la place de la nation, c'est que des œuvres d'art et l'espace public dans le citoyen de la cité, ça dit quelque chose et ça fonde quelque chose.
Et une dernière question, on aurait longtemps à parler avec vous, historien, militant autour de cette question. Et puis de la mémoire. Peut-être terminer, si vous le voulez bien, rapidement l'un et l'autre, sur cette mission qui a été confiée à Benjamin Stora par Emmanuel Macron. On n'a pas les tenants et ni les aboutissants encore. Mais en tout cas, votre point de vue sur l'importance que ça revêt que de faire parler un historien, de rendre un rapport sur comment va la France et l'Algérie aujourd'hui, parce que c'est un peu de ça qu'il est question, me rappelait Benjamin Stora, mais de porter un rapport politique d'une certaine manière. C'était important pour vous, c'est important pour vous qu'il y ait eu ce rapport, peu importe l'historien, mais qu'il y ait une volonté de dire qu'il faut réfléchir et porter la connaissance entre la France et l'Algérie pour un apaisement, disait-il. Hein. C'est la première question qui était...
Je pense que... toutes les missions de réflexion, les commissions, qui portent connaissance ou reconnaissance d'un certain nombre d'événements sont importantes. La mission de notre ami Benjamin Stora est sur la connaissance. Bon, et aussi, c'est pas seulement sur la connaissance, mais sur la préconisation d'un certain nombre de choses. Et comme je le disais tout à l'heure. Pendant trop longtemps, on a eu des discours, des commissions, des déclarations, mais très peu, souvent, suivis d'actes. Ce sont les actes qui comptent. Voilà. Si Benjamin Stora préconise des choses qui
vont acter la reconnaissance
et qui construisent, qui réparent, qui nomment, qui disent, ok. Si c'est une commission pour dire, ben voilà, on s'est penché sur quelque chose pour faire plaisir à tous les publics concernés par la guerre d'Algérie et sans choses concrètes, ça sera un coup pour rien, encore une fois.
Rapidement, Olivier Lecaux-Grandmaison, sur cette question du rapport qu'un historien doit rendre sur la guerre, la France et l'Algérie.
Je n'ai rien contre les commissions. Le problème, c'est moins les commissions et les rapports qui sont rendus que le destin des 10 rapports, dont on sait que pour certains d'entre eux, dès lors qu'ils portent sur des questions sensibles politiquement, qui sont en l'occurrence des questions à la fois françaises et algériennes, que, hélas, trop souvent, ces rapports finissent dans les tiroirs de la République et n'en ressortent jamais. Et donc, je suis absolument d'accord. Ce qui compte désormais, ce sont les actes et mettre enfin un terme à ce qui est une discrimination mémorielle et commémorielle qui s'ajoute à toutes celles dont sont victimes les héritiers de l'émigration coloniale et post-coloniale. Et cela n'a que trop duré.
Merci de ces mots de la fin, Olivier Lecaux-Grandmaison, Mehdi Lalaoui, merci pour ce rendez-vous avec l'histoire, votre fidélité et votre engagement est infatigable. On se retrouve le 17 octobre sur le pont Saint-Michel à 18h et j'espère que nous serons nombreux. D'ici là, passez une bonne semaine, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. Au revoir à tous, au revoir à toutes.
Retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.